opérer un virage au niveau donc de la direction du groupe Meta. Lors de son adresse pour parler de la suppression du programme de fact-checking, Zuckerberg a précisé qu'il avait décidé, entre autres au niveau de Meta, de concentrer moins leurs efforts, par exemple, sur les discours politiques, mais plus sur du contenu illégal tel que les arnaques, la drogue, le terrorisme. Dans un contexte, par exemple, où l'armée béninoise vient de perdre 28 soldats dans la zone dite du point triple, une partie du territoire proche de la frontière avec le Niger et le Burkina. En fait, Zuckerberg a d'ailleurs lui-même, durant son adresse, reconnu en fait que le fait que Meta se focalise dorénavant sur des sujets tels que les arnaques, la drogue, le terrorisme, implique que beaucoup de mauvaises choses vont dorénavant passer à travers les mailles du filet pour aller toucher les internautes, ce qui pose des questions par rapport aux implications géopolitique de cette nouvelle orientation sur les marchés en Afrique, de l'Ouest par exemple, de Meta. Car ce qu'il faut comprendre derrière cette annonce, c'est que ce nouveau projet en fait pourrait encore plus déstabiliser les pays d'Afrique de l'Ouest, en proie déjà au terrorisme, aux arnaques en ligne par exemple. Et pour Meta, c'est avant tout, il faut voir Meta comme un géant technologique, un géant idéologique qui aujourd'hui a la capacité d'amplifier la viralité de certains contenus donc à destination des internautes. Meta, c'est aussi un acteur politique, en plus d'être un acteur géopolitique de premier plan. Donc, Meta a récemment annoncé, par exemple, être à la recherche de partenaires pour développer des centrales nucléaires. Donc, l'évolution de l'intelligence artificielle aujourd'hui génère des besoins croissants en énergie. Et pour répondre à ces besoins, Meta souhaite dorénavant construire des centrales électriques et aura également besoin d'uranium. Donc, c'est pour cette raison que nous estimons aujourd'hui, au niveau d'Internet sans frontières, qu'il faudrait que les États africains soit extrêmement vigilant face à cette annonce, face à ce projet, qui vise en fait in fine à manipuler des algorithmes pour que les internautes voient malheureusement encore plus de contenus toxiques, des contenus polarisants sur des sujets tels que les arnaques, la drogue, le terrorisme, de sorte qu'ils pourraient manipuler l'espace informationnel dans le but malheureusement d'influencer la perception des citoyens de tous ces pays.
Merci de relever déjà l'impact que cette décision aurait sur l'Afrique de l'Ouest si jamais la décision s'étendait à d'autres pays en dehors des États-Unis. Monsieur Onanina, dans une lettre ouverte adressée au patron du groupe Meta, vous, les vérificateurs de faits, vous estimez que cette décision, je cite, menace d'annihiler près d'une décennie de progrès dans la promotion d'informations exactes en ligne. Doit-on comprendre par l'onde de choc qu'a suscité cette décision qu'elle marque un tournant dans la manière dont les plateformes gèrent la modération de contenu?
Oui, effectivement, c'est un tournant majeur. C'est regrettable, ce revirement de situation, d'autant plus que depuis 2016, Meta s'est souvent félicité de l'efficacité de ce programme de fact-checking contre la désinformation et les contenus trompeurs en ligne, d'autant plus qu'il y a des études scientifiques qui ont prouvé que l'étiquetage de contenus trompeurs sur les réseaux sociaux permettait de réduire la croyance du public en des contenus trompeurs. Et quand on arrive là aujourd'hui, ce n'est pas seulement un problème pour les fact-checkers, mais globalement, c'est un problème pour tous ceux qui utilisent ces plateformes de réseaux sociaux.
Alors, je vais peut-être un peu jouer à l'avocat du diable, mais lutter contre la désinformation tout en promouvant la liberté d'expression, n'est-ce pas un couteau à double tranchant pour les entreprises technologiques, monsieur Ouenou?
Oui, merci. Je crois qu'il y a au moins trois lignes de lecture, en fait, pour cette décision. Je crois qu'il y a la lecture purement philosophique, donc qui est idéologique, que défend d'ailleurs Meta, donc qui est le principe, en fait, de non-nuisance, voilà, qui détermine et délimite, en fait, la liberté d'expression. Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture qu'ils ont évoquée, c'est vraiment les coûts. Est-ce que c'est déjà efficace? Je pense qu'il y a des études qui prouvent que vraiment, le fact-checking est assez efficace, mais en même temps, en termes d'efficience, en fait, pour un système comme Meta, et avec l'arrivée maintenant de l'intelligence artificielle, est-ce que toujours le fait à travers les hommes, est-ce que c'est vraiment raisonnable en termes de coût pour eux? Donc ça, c'est l'argument économique. Mais en fait, l'argument qui domine le plus, et je pense que c'est ça le plus important, et je pense que tous les analystes sont d'accord, unanimes là-dessus, c'est vraiment l'alignement et le réalignement politique de Meta sur ce qui se passe aux États-Unis. C'est vrai que Meta est un mastodonte mondial, mais après, ça se passe que les États-Unis ont décidé désormais de se concentrer sur eux-mêmes, et Enya a été un peu à la marge, en fait, du réalignement de la Silicon Valley sur les politiques trumpiennes, Mark Zuckerberg est juste en train de se rattraper.
Alors, on a vu les arguments soulevés par le patron de Meta pour justifier cette décision, mais est-ce qu'on peut consacrer quelques petites minutes pour parler aussi des limites de ces programmes de fact-checking, parce que certains ont soulevé des questions de neutralité, d'impartialité ou de biais de l'algorithme, Monsieur Afagnon?
Non, en fait, je pense que les programmes de fact-checking, en fait, ont montré leur importance dans des contextes où, justement, les internautes aujourd'hui viennent de plus en plus accéder à l'information sur des plateformes telles que Facebook ou WhatsApp, par exemple. Et avec la fin du fact-checking, Meta, en fait, essaye d'affirmer sa volonté de prendre cette distance par rapport au rôle d'arbitre qu'il est censé jouer, justement, qu'il devrait jouer pour laisser maintenant les utilisateurs réguler eux-mêmes les informations via ce qu'il appelle des notes communautaires. Alors, sur le papier, cela ressemble un peu à une démocratisation du contrôle des contenus par les internautes. Dans la pratique, cependant, cela pose des questions majeures sur la fiabilité et l'objectivité d'un tel système, car cette décision s'apparente à une catastrophe aujourd'hui dans de nombreux pays.
Alors, les programmes de fact-checking ont des limites ou pas, Monsieur Afagnon? C'est ce que j'aimerais comprendre.
Non, il n'y a pas, parce qu'on a, dans l'annonce, en fait, il parle de biais, en fait, de biais politique. Mais sur le principe, en fait, c'est une action, en fait, qui a porté un impact positif sur la durée, en fait, dans les pays où elle a été mise en place. C'est une action qui a été portée par de nombreux partenaires. Donc, je pense qu'on a près de 90 partenaires dans plus d'une centaine de pays. Donc, en fait, comme je le disais, en fait, c'est vraiment une manière de se désengager, de prendre cette distance par rapport au rôle d'arbitre qu'il devait jouer, justement, en fait, pour faire reposer cette responsabilité sur d'autres personnes, en fait. C'est tout simplement ça.
Monsieur Onanina, comment éviter que les organismes indépendants qui font dans la vérification des faits prennent parti eux-mêmes? Sur quels critères vous vous basez pour déterminer si une information doit faire l'objet de vérification ou pas?
Simple, qui est importante à préciser, c'est que les organisations qui sont membres de ce projet de Meta sont toutes certifiées par l'International Fact-Checking Network, qui promeut la transparence, l'équité et toutes les valeurs fondamentales pour une pratique journalistique fiable. Et c'est Meta même qui avait exigé des fact-checkers qu'ils soient d'abord certifiés par ce programme avant de faire partie soit certifiés par l'IRC avant de faire partie de son programme de vérification par les faits. Maintenant, comment est-ce qu'on identifie une information à vérifier? Nous sommes avant tout journalistes. On sait à peu près quels contenus peuvent être trompeurs ou dangereux dans les contextes dans lesquels on travaille. Et voilà, tout ce qu'on a à faire, c'est identifier ces contenus, faire le travail de vérification qui finalement est un travail basique en termes quand on est journaliste. Et ensuite, ces articles sont soumis à Meta. La déclaration de Zuckerberg est assez dangereuse dans le sens où la perception par le public aujourd'hui, c'est que ce sont les fact-checkers qui arbitrent la vérité sur Meta.
Donc vous ne décidez pas si un compte doit être censuré pour avoir diffusé de fausses informations ou pas?
Non, ce n'est pas la décision des fact-checkers. C'est Meta qui décide de réduire la visibilité d'un contenu en ligne après que des fact-checkers aient rédigé un papier, étiqueter la publication en question. Les fact-checkers, leur pouvoir est assez limité dans ce sens-là. Et malheureusement, la perception du public, c'est que ce sont nous les fact-checkers qui arbitrons la vérité sur Internet, et c'est important de rectifier cela.
Donc c'est Meta qui prend toutes ces décisions. Monsieur Ouenou, finalement, est-ce qu'il y a une frontière entre la vérification des faits et la censure? Si ça existe, quelle serait cette frontière finalement? Je crois qu'on a un petit souci avec la liaison avec Dr Boris Ouenou. Monsieur Afagnon, vous voulez répondre à cette question? Ah, Dr Boris Ouenou, vous êtes avec nous maintenant?
Oui. Oui, je crois que il y a forcément une délimitation. En fait, il y a une idée qu'on appelle la concurrence des idées. Donc, c'est un concept qui est quand même très très connu, par exemple en économie. Donc, la concurrence des idées, et c'est un peu ce que disait Zuckerberg, la concurrence des idées, en fait, techniquement, devait permettre qu'émerge la vérité. Après, dans le contexte, par exemple, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a l'infodémie qui permet aux algorithmes, en fait, essentiellement, d'inonder les utilisateurs de tout ce qui est mauvaise nouvelle, parce que il se fait que les recherches ont montré que le cerveau humain a vraiment une aptitude, a une excitation, en fait, par rapport à ce qui est tout ce qui est mauvaise nouvelle. Et donc, pour ça, mettre en concurrence en fait les idées, aussi bonnes que mauvaises, ne permet pas forcément de faire émerger la vérité. Et dans un contexte vraiment de post-vérité dans le monde dans lequel nous vivons, c'est extrêmement compliqué en fait de marquer cette différence. Maintenant, ce que je voudrais dire qui est très clair, je ne sais pas si c'est une bonne idée de confier à une seule instance le fact-checking ou le contrôle versus en fait confier ce même rôle en fait à un peu plus large à démocratiser cela.
Donc, quand vous parlez d'instance, vous parlez d'instance.
Exactement. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un groupe à lui seul qui décide de faire le contrôle et de la modération du contenu versus que des individus dans un groupe un peu plus élargi et démocratique peuvent le faire, je ne sais pas quel est le bénéfice entre les deux. Et c'est très difficile à trancher.
Alors, tout à l'heure, on va expliquer ce que c'est que réellement ces notes à la communauté et comment ça fonctionne. Mais avant, je vous propose quelques réactions de nos téléspectateurs recueillis sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons Alphonse Mbouaki qui nous dit que la décision de Meta semble être plus une mesure d'apaisement politique qu'une bonne décision stratégique. Sans alternative crédible, selon lui, on ouvre la porte à un flot de contenu encore plus dangereux. Archiduc Théodore de N'Djamena au Tchad nous dit que Mark Zuckerberg a bien fait de mettre fin à ce programme qui met du doute véritable à son audience plus nombreuse socialement que politiquement. Merci pour vos commentaires. On se retrouve après la pause pour la suite de ce débat et les commentaires de nos invités. Washington Forum sur VOA Afrique.
Devient le 47e président des États-Unis et retrouve le fauteuil présidentiel qu'il avait perdu en 2020.
Suivez en direct sa prestation de serment sur toutes les plateformes de VOA Afrique.
Reportage, analyse et compte rendu en direct de nos reporters sur le terrain.
Ne ratez pas notre couverture complète à partir de 16h temps universel sur Facebook et à la radio.
À la télé, nous vous proposons une édition spéciale du Monde aujourd'hui, de 19h30 à 20h temps universel.
L'investiture de Donald Trump comme 47e président des États-Unis, c'est le 20 janvier 2025 sur VOA Afrique.
Avec vous dans Washington Forum sur VOA Afrique, nous parlons de la décision de Meta de supprimer les programmes de fact-checking. Ces mesures annoncées récemment par Meta sont mauvaises car elles portent atteinte aux droits fondamentaux et à la souveraineté nationale, donnant lieu à un Far West numérique. C'est la déclaration du ministre brésilien de la communication. Je précise que Meta promet tout de même qu'il va continuer à retirer tout contenu qui incite à la violence ou constituant une menace à la sécurité publique. Mais quel modèle désormais pour lutter contre la désinformation en l'absence de modération des plateformes technologiques? Pour ce débat, je suis avec Dr Kemal Afagnon du côté du Bénin. Il est responsable section Afrique de l'Ouest d'Internet sans frontières. Nous avons de Dakar au Sénégal Valdez Onanina, chef du bureau Afrique francophone de Africa Check, et de Montréal au Canada Dr Boris Wenou, économiste spécialiste de la tech. Vous avez commencé par expliquer un tout petit peu, Dr Afagnon, à la place du fact-checking, Meta va proposer des notes de la communauté qui permettront aux utilisateurs d'ajouter eux-mêmes du contexte. Comment fonctionne ce système et quelles peuvent être ses failles?
Alors, en fait, l'idée qui consiste à recourir aux notes d'information se base à peu près sur le modèle de ce qui se fait actuellement sur X, sur le réseau d'Elon Musk, en fait. Alors, ce système de community notes, c'est une manière d'externaliser le fact-checking en s'appuyant sur les utilisateurs eux-mêmes. Donc, vous comprenez avec moi que ça coûte quasiment rien du tout à la plateforme qui, du coup, n'assume pas ses responsabilités et fait reposer le travail d'arbitrage du vrai ou du faux sur ceux qui participent au fonctionnement de la plateforme. Le problème, c'est que ce type de procédé va donner lieu à un rapport de force qui va s'instaurer à travers des sources considérées comme plus ou moins fiables par rapport à d'autres sources, et que grâce à son algorithme puissant, Meta pourrait dorénavant amplifier la diffusion de contenu de personnes qui représentent les idées que le groupe partage plus sur des questions aussi sensibles que le terrorisme, les arnaques ou le narcotrafic, par exemple. Alors, le défaut de ce système, c'est qu'il y a tout un ensemble de contenus qui devraient être régulés, je pense aux incitations à la haine par exemple, qui ne font pas l'objet de community notes par exemple, ce genre d'étiquette que les utilisateurs doivent apposer au bas de leur contenu. Et dans la mesure où il n'y a pas de régulation, ces informations passeront d'office à travers les mailles du filet. Donc la décision de Meta en fait de réduire la modération et de restaurer la visibilité des contenus politiques n'est donc pas sans risque, vous comprenez avec moi. Twitter utilise déjà ce modèle, comme je le disais, et c'est un modèle qui a montré ses limites, les limites d'un dispositif où les groupes qui sont en général les plus organisés peuvent rapidement prendre contrôle des discussions, orienter les discussions en ligne à leur avantage. Donc, s'en remettre aujourd'hui aux notes de la communauté dans un tel contexte, cela veut dire pour Mark Zuckerberg qu'il ne veut plus externaliser cette responsabilité, mais qu'il veut plutôt qu'il veut plus confier cette responsabilité à des professionnels qui le faisaient à travers le fact-checking et à ses algorithmes, qui veut peut-être plutôt utiliser ces algorithmes pour pousser d'autres types de contenus à l'endroit des internautes. Donc les règles d'utilisation par conséquent de la plateforme vont également connaître un réel assouplissement et seront par conséquent moins contraignantes. Première implication, donc les internautes pourront dire à peu près tout ce qu'ils veulent sans retenue sur Meta, sur le réseau Facebook, voire recourir à des idées qui étaient même bannies du réseau, et ce qui pourrait induire par exemple une augmentation du niveau de la haine, du niveau d'invective et puis aussi de tout ce qui est contenu violent et toxique.
Alors si ce système a ses limites, comme vous venez de l'expliquer, quel modèle alors serait plus efficace pour lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux, Monsieur Onanina?
Je suis très d'accord avec ce que vient de dire Dr. Kema Lafrenière. Je pense que le système des notes de la communauté a montré ses limites, notamment sur X, et je pense que ce ne sera pas très différent sur Facebook, sur les plateformes de Meta. Ça nous expose à une situation où chacun viendra avec sa part de vérité et on ne saura plus à quoi se fier. Le système le plus efficace pour répondre à la désinformation sur les réseaux sociaux, c'est certainement le fact-checking, mais pas que. Nous, globalement, dans notre approche, on essaye de promouvoir des meilleures pratiques journalistiques, la transparence dans l'action publique, dans les déclarations faites par les personnalités publiques. Je pense que si on s'active, et pas seulement les fact-checkers, j'ai envie de dire, mais tous ceux qui travaillent à l'intégrité de l'information, si on s'active dans ce sens-là, on peut assurer un environnement informationnel beaucoup plus sain où on pourra très rapidement identifier les contenus à même de poser ou de poser du préjudice aux utilisateurs et au public.
Je suis curieux de comprendre un tout petit peu, Monsieur Onanina. Je suis curieux de savoir comment vous allez réorienter votre travail, vous qui êtes des vérificateurs des faits, si jamais cette décision est étendue à d'autres continents.
J'ai envie de dire qu'une organisation comme la nôtre, depuis 2012, est savant que Meta ne mette en place son programme. Le danger, une fois de plus, dans la déclaration faite par Zuckerberg, c'est que beaucoup de personnes ont tendance à croire que le fact-checking existe à travers Meta, ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire que nous, notre travail à Africa Tech, le travail qu'on fait avec Meta, ne constitue qu'une partie du travail de vérification que nous faisons. Au quotidien, nous examinons les déclarations faites par les personnalités publiques, dans les médias, dans les différents pays où nous nous trouvons. Et c'est un travail de fact-checking qui également a un impact en termes de lutte contre la désinformation. Donc, l'espace Meta n'est pas le seul espace où les fact-checkers travaillent. Je tiens à préciser qu'il existe dans le monde aujourd'hui plus de 200 organisations de fact-checking. Toutes ne sont pas certifiées, donc toutes ne sont pas dans le programme Meta, mais n'empêche que celles-ci travaillent et mènent des actions assez louables dans leurs différents environnements. Donc, je ne pense pas forcément que cette décision de Meta viendra mettre fin au fact-checking, contrairement à ce que la majorité des personnes peuvent croire, malheureusement, du fait de la manière dont la déclaration de Meta a été faite à travers son leader, Mark Zuckerberg.
Une petite dernière question avec vous, Monsieur Onanina. S'il y a une chose que j'ai appris en lisant votre lettre ouverte adressée à Mark Zuckerberg, c'est que les hommes politiques étaient exemptés de vérification des faits. Leurs propos n'étaient pas fact-checkés.
Oui, alors, précisément, ce qui se passait sur Meta, c'est que Meta refoulait systématiquement toute vérification des faits qui concernait des pages de personnalités politiques ou de groupes politiques. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est un peu préoccupant. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le travail de vérification des faits de déclarations faites par les personnalités politiques, nous le faisons en dehors des plateformes de Meta. De manière précise, nous scrutons les médias, nous scrutons les pages de ces personnalités-là, nous faisons des articles de vérification que nous publions sur nos sites Internet, mais pas à travers les plateformes de Meta qui, une fois de plus, rejettent systématiquement tout ce qui est déclaration, tout ce qui est vérification de déclarations faites par les politiques.
Je vous remercie pour cette précision.
Alors, ouais. Par contre, sont les premiers dont nous devons nous intéresser en termes de lutte contre la désinformation.
Docteur Onu, quel modèle voyez-vous désormais pour lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux, notamment en l'absence de vérification de faits? La question était plutôt pour Docteur Onu, pardon.
Ouais, j'avais dit au début que le fact-checking reposant en fait sur des individus est un système qui forcément tend déjà vers sa limite, parce qu'à l'ère de l'intelligence artificielle où chacun peut faire un barrage d'informations et les publier, donc il y a la montée en puissance en fait de la mauvaise information, c'est vraiment un problème important à prendre en compte. Et donc pour moi, la solution immédiate ou à long terme en fait pour tous ces problèmes que nous avons, c'est essentiellement l'éducation. Et donc il faut que tous les utilisateurs en fait de ces plateformes deviennent des responsables eux-mêmes en fait en ce qui concerne le fact-checking. Et il faut qu'ils sachent comment est-ce qu'il faut le faire. Donc éduquer, et je veux dire des associations comme Internet sans frontières ou d'autres qui sont vraiment pour l'accès à l'information, l'accès à l'information crédible sur ces plateformes, devait encourager, former les gens essentiellement à être eux-mêmes des acteurs capables de faire ces fact-checking-là au lieu de les vraiment outsource à des individus ou à des entités, quelles qu'elles soient.
Brièvement, je fais un petit dernier tour de table. Si jamais cette décision est étendue à d'autres pays, à d'autres continents, quelle attitude adopter? Je commence par vous, Monsieur Wenu. Quitteriez-vous les réseaux sociaux ou s'adapter?
Mais bien sûr, on va continuer pas à utiliser les réseaux sociaux. Moi, il y a un problème en Afrique qui est très important, c'est-à-dire que c'est la double peine, en fait, à la fois de la censure et de la criminalisation, en fait, de l'expression libre, en fait, sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un problème, en fait, fondamental. Il y a plus d'une douzaine de pays qui ont des lois qui criminalisent, en fait, l'usage de ces plateformes-là. Et je pense que comment vraiment jouer avec ces deux approches, à la fois de la censure, qui est maintenant relativement levé par Meta, mais aussi par la criminalisation qu'on a dans nos pays. Ça sont des questions que les acteurs qui sont dans la société civile qui travaillent sur ça les questions sur lesquelles ils devaient se pencher.
Monsieur Afagnon, se retirer ou s'adapter? Quelle est votre réponse? Comment s'adapter si cette décision s'étendait à d'autres pays, d'autres continents?
Alors, se retirer, non. Ce serait baisser les armes face à cette stratégie qui est en train d'être déployée. Je pense qu'aujourd'hui, on gagnerait tous, par exemple, à redynamiser l'espace public, à revitaliser l'espace de l'opinion où on peut encore faire de vrais débats hors ligne, donc organiser des actions citoyennes, par exemple. Ça passe par l'éducation, comme je viens de l'entendre, c'est quelque chose d'important, afin de permettre en fait à tout un chacun de donner son avis sur des sujets d'intérêt public. Et puis, face aux ambitions de Meta, il faut prendre, par exemple, aussi... il faut prendre un exemple sur le Nigeria, par exemple, qui, un peu avant la fin de l'année 2024, a infligé une amende donc au réseau américain, une amende, je crois, de près de 220 millions de dollars.
Malheureusement, on n'a plus assez de temps, monsieur Afagnon.
Pour violation de protection des données, en fait. Et puis, nous aussi, par exemple, au niveau d'Internet sans frontières, c'est pour ces raisons que nous militons pour la relecture du code du numérique au Bénin, notamment à travers la mise à niveau...
Merci.
Cadre juridique pour les plateformes en ligne.
Brièvement, monsieur Onanina, s'adapter ou se retirer? En un mot, finalement.
S'adapter et pas.
Je vous remercie pour votre contribution à ce numéro de Washington Forum. Docteur Kemal Afagnon de Internet sans frontières, Valdès Onanina de Africa Check et vous, docteur Boris, économiste et spécialiste de la tech. C'est la fin de ce numéro Washington Forum avec Alexandrine Rolognon. Merci à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent. Le rendez-vous, c'est tous les jeudis à 19h temps universel sur VOAfrique, voafrique.com. Rediffusion samedi et dimanche. Très bonne soirée. Merci à tous.